să luăm aminte. În vremea aceea, când a trecut Iisus dincolo în ținutul Ghergesenilor, iată că l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte foarte furioși, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. Și iată, au început să strige și să zică: ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Și era departe de ei o turmă mare de porci la păscut, iar diavolii îl rugau zicând: dacă ne scoți afară, dă nevoie să ne ducem în turma de porci. Atunci Iisus le-a zis: duceți-vă! Iar ei ieșind s-au dus în turma de porci. Și îndată toată turma de porci s-a aruncat de pe țărmul mare și s-a înnecat în apă. Atunci păzitorii au fugit și, ducându-se în oraș, au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu cei îndrăciți. Îndată tot orașul a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, l-au rugat să plece din ținutul lor. Și intrând în corabie, Iisus a trecut din coace și a venit în orașul său. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Soyons attentifs. En ce temps-là, quand Jésus arrivait au pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant d'un cimetière vinrent à sa rencontre. Ils étaient si sauvages que personne n'osait passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier: que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Or il y avait à quelque distance de là un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons implorèrent Jésus en disant: si tu nous expulses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Jésus leur dit: allez-y. Ils sortirent donc et s'en allèrent dans le troupeau de porcs. Et voici que du haut de l'escarpement, tout le troupeau se précipita dans le lac, où il périt sur les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en furent en ville raconter toute cette affaire ainsi que la guérison des possédés. Alors toute la ville se porta au devant de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le prièrent de quitter leur pays. Et Jésus s'embarqua pour traverser le lac et revenir dans sa propre cité.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'épisode qui nous est relaté dans cet évangile nous raconte la guérison des deux démoniaques que Jésus a rencontrés dans son chemin. Quelques éléments que je voudrais vous présenter de cet évangile, très vite. Tout d'abord, faites attention, qu'est-ce que dit l'évangile sur la position de ces deux hommes. Il dit que les deux démoniaques sortant d'un cimetière. Tout Tout d'abord, cet évangile nous met devant la réalité des démons, la réalité de la lutte que les démons portent toujours contre l'homme. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier, c'est une réalité qui a différentes façons de se manifester, mais cette réalité existe et chacun d'entre nous la peut sentir, si vous voulez, dans sa propre vie. Deux démoniaques qui sortaient d'un cimetière. Ça signifie qu'ils étaient assez isolés. Ça signifie qu'ils étaient assez loin de tous les autres. Ça signifie que tous ceux qui voulaient avoir une relation avec eux, ils avaient beaucoup de difficultés pour avoir une relation humaine avec les deux démoniaques. Parce que c'est ça qu'ils cherchent, dit l'Écriture, que le diable cherche la rupture. Je crois que vous savez déjà qu'est-ce que signifie le mot « diabolos » en grec. C'est lui qui sépare, c'est lui qui a deux volontés, « dia volos ». « Dia » deux, « volos » volonté. Le diable, c'est celui qui introduit la séparation entre les hommes. Et voilà que déjà, les premières lignes de l'Évangile nous rappellent que les deux démoniaques sortaient d'un cimetière, sortaient d'un endroit qui était très loin de la communauté, du village peut-être. Ils étaient isolés, parce que le diable, c'est ça qu'il fait, l'isolation de l'homme, de l'homme et de Dieu. Un deuxième aspect que je voudrais vous signaler, c'est que tout d'abord, quand ils ont vu le Christ, ils ont dit « Que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu ?» Très important. Ceux qui interprètent ce fragment de l'Évangile, les pères qui interprètent ce fragment de l'Évangile, ils disent qu'il n'y avait pas les hommes qui parlaient, mais qu'il y avait le diable qui parlait par la bouche de ces deux hommes. Et voilà qu'est-ce qu'ils disent. « Qu'est-ce que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu ?» C'est une déclaration de la divinité du Christ. Parce qu'il dit l'Écriture, il dit l'Évangile, que même les démons croient dans la divinité du Christ, croient en Dieu. Les démons, ils croient en Dieu. Mais la foi, leur foi ne l'aide à rien, parce que c'est une foi qui est basée sur la séparation et qui n'a pas l'amour pour Dieu et pour les autres. Voilà, les démons qui disent « Qu'est-ce que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu ?» Très bien. Nous aussi, les hommes, on peut très bien témoigner notre foi, mais si notre foi, c'est une foi qui n'est pas fondée sur l'amour et sur l'unité, c'est une foi vide, c'est une foi qui n'a pas de consistance. Donc attention, il suffit pas de dire « Voilà, je crois en Dieu et je crois en Dieu et ça me suffit. » Ça ne suffit pas ça. Les démons, ils font pareil. Qu'est-ce que tu nous veux ? Qu'est-ce que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu ? Fils de Dieu. La foi ne suffit pas. La foi doit être complétée par des actes antérieurs, par l'amour, par l'ouverture vers l'ouvrage de Dieu en nous. Les démons se sont inquiétés parce que le Christ venait faire quelque chose avec eux, même s'ils avaient la foi. Même s'ils ont témoigné que le Christ est le Fils de Dieu. Nous, contrairement, on doit être ouvert à l'ouvrage de Dieu. On doit ouvrir nos cœurs quand le Christ vient nous appeler. Et maintenant, je voudrais passer à une autre partie de mon homélie, en lien avec l'Évangile d'aujourd'hui, pour voir un peu comment est-ce que les pères de l'Église ont vu cette relation avec Dieu, cette relation avec le péché qui est en nous, le péché qui travaille en nous comme un sort de démon, si vous voulez, et comment est-ce qu'on peut échapper de ces ténèbres pour arriver à la lumière. Je vous propose de lire quelques fragments des prières qui d'habitude, chacun d'entre vous le dit avant de communier, les douze prières que vous dites toujours avant la communion. pour voir un peu cette tension entre la conscience du péché, entre la conscience que le démon, il peut avoir une influence très forte sur nous, la conscience donc du péché, d'un côté, et d'autre côté, la conscience que c'est le Christ qui nous sort du péché, c'est le Christ qui nous amène vers la lumière. Voyez un peu cette tension, la conscience du péché et la conscience que le Christ est le guérisseur de nos âmes. J'ai péché, Seigneur, contre le ciel et contre toi, et je ne suis pas digne de lever les yeux vers ta très haute gloire, car j'ai offensé ta bonté en violant tes commandements et en n'obéissant pas à tes préceptes. C'est la première prière. Mais toi, Seigneur, tu es patient. Mais toi, Seigneur, tu es longanime et très miséricordieux. Aussi, tu as attendu patiemment et tu ne m'as pas laissé me perdre à cause de mes péchés. Je répète, tu ne m'as pas laissé me perdre à cause de mes péchés. Ô ami des hommes, tu as dit toi-même par ton prophète, en aucune façon je ne veux la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Tu ne veux pas donc, Seigneur, que se perdre l'œuvre de tes mains, et tu ne te plais pas dans la ruine des hommes. Voilà l'exemple d'Évangile. Le Christ, Dieu, qui vient guérir ceux qui pour les autres étaient une seule ruine. Tu ne te plais pas dans la ruine des hommes, mais tu désires que tous soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Tous soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Parfois, nous, peut-être, on est comme des citoyens de ce village qui ont isolé le démoniaque. Peut-être nous, dans nos vies, peut-être nous aussi, nous isolons les gens qu'on croit qu'ils n'ont plus d'accès au royaume de Dieu. Faites-vous un procès de conscience pour voir si c'est comme ça ou pas. Je suis sûr que chacun d'entre nous, dans un certain moment de notre vie, nous avons isolé quelqu'un. Nous avons dit, voilà, c'est fini avec lui. C'est pas vrai. Pour Dieu, c'est pas vrai ça. Pour Dieu, ça n'existe pas. Si nous, on est capable d'envoyer en enfer quelqu'un, Dieu, il veut pas ça. Et la prière dit très clair. Toi qui désires que tous soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qu'il dit après la prière ? Aussi bien que je sois indigne du ciel et de la terre, et même de cette vie passagère, bien que je sois un serviteur docile du péché et l'esclave de mes passions, moi qui ai souillé ton image, mais qui suis pourtant ton œuvre formée par toi, je ne désespère pas de mon salut, tout misérable que je suis. Confiant dans ta miséricorde, sans borne, je m'approche de toi. C'est ça qu'ils ont fait les deux démoniaques. Ils ont entendu le Christ passer, et même s'ils étaient possédés, ils se sont approchés de Christ. Même si le péché est en nous, voilà, je m'approche de toi en faisant confiance à ta miséricorde sans borne, dit la prière, la première prière de Saint Basile le Grand. Accueille-moi donc au Christ, ami des hommes, comme tu as accueilli la pécheresse. Accueille-moi, ami des hommes, comme tu as accueilli le larron, le publicain et l'enfant prodigue. Délivre-moi du lourd fardeau de mes péchés. Je viens devant la communion. Je suis conscient que je suis plein de péchés. Je suis conscient que le péché travaille en moi. Je suis conscient que le péché, il a fait en moi un sort de chez lui. Et pourtant, je viens devant le Christ, devant le Dieu, et je lui demande, délivre-moi du lourd fardeau de mes péchés. Toi qui ôtes le péché du monde et qui guéris les maladies des hommes, toi qui appelles ceux qui sont accablés, toi qui es venu non pour les justes, mais pour appeler les pécheurs au repentir. Dieu qui n'est pas venu pour les justes, mais pour le pécheur, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin, pour les démoniaques que l'Évangile d'aujourd'hui nous a présentés, pour chacun d'entre nous qui a besoin, qui attend par le péché. Purifie-moi de toute souillure de la chair et de l'esprit. Enseigne-moi à accomplir des œuvres saintes dans ta crainte. Et fais, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que la communion à tes très purs et vivifiants mystères ne soit pour moi un jugement, ni pour ma condamnation, et que je ne devienne pas malade d'âme et de corps pour y avoir participé indignement à la Sainte Communion. Attention, un élément très important ici dans cette prière, le Christ, il est venu pour guérir l'homme, pour sauver tous les hommes. Mais attention, l'homme, lui aussi, il doit faire quelque chose. Tout d'abord, commencer à monter sur l'échelle de la conscience de ses péchés, de son état de péché, devenir d'un plus en plus conscient que le péché travaille en lui. Et pour ça, les pères de l'Église et toute l'orthodoxie exigent que la présentation devant l'Eucharistie doit passer avant tout par la confession. La présentation devant le corps et le sang de Christ ne peut pas être faite d'une manière inconsciente, ne peut pas être faite d'une manière automatique, ne peut pas être faite d'une manière, indifférente. On vient devant le Christ avec la conscience de nos péchés. On vient devant le prêtre avec la conscience de nos péchés. Et même si on ne fera jamais tout ce qu'il faut faire pour être digne de recevoir le corps et le Christ de notre Seigneur Jésus-Christ, au moins essayons. Au moins commençons à faire quelque chose. Au moins se confesser une fois quelques mois peut-être. Une fois par mois. Une fois à deux mois. Mais il faut se confesser. Parce que sans confession, on ne peut pas se présenter devant le Christ. C'est un sacrilège. Et si vous lisez l'épître de l'apôtre Paul, le deuxième épître vers le Corinthien, l'apôtre Paul, il dit clair, « Pour ça, il y a entre vous des malades, parce que vous vous êtes approchés du corps et du sang de Christ dans l'état de péché. » Et la prière de Saint Basile, le Grand, dit la même. Que la communion à très pur et vivifiant mystère ne tourne pas à mon jugement, ni à ma condamnation, et que je ne deviens pas malade d'âme et de corps pour y avoir participé indignement à tes saints mystères. Attention, ce n'est pas un jeu. La communion, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est une chose qui est très importante. La première responsabilité appartient aux prêtres. De dire aux fidèles qu'il faut s'approcher de Christ dans cet état d'humiliation, d'humilité peut-être, je ne sais pas en français, smerenia en roumain, d'humilité peut-être, dans cet état de conscience de ton péché, que tu n'es pas digne de recevoir le corps et le sang de Christ, et quand même, et pourtant, le Christ, il vient se donner à toi, toi le pécheur, toi dans lequel le péché travaille comme les démons travaillent dans les deux démoniaques de l'évangile d'aujourd'hui. Ne venez plus à l'Eucharistie comme à la soupe, si vous voulez. Attention, faites l'exercice de pénitence, faites l'exercice de prière chez vous. Ne vous attendez pas que deux heures à l'église vont ouvrir beaucoup votre relation avec Dieu. Faites l'exercice de la prière chaque jour chez vous, chaque jour chez vous, chaque jour chez vous. Quelques dizaines de minutes pour vous préparer pour la liturgie de dimanche. À partir de lundi, à partir de mardi, préparez-vous déjà pour la liturgie de dimanche. Faites-vous le chemin de pénitence, si vous voulez, en sachant que dimanche, oups, c'est le Christ qui viendra pour se donner. Et que moi, je vais me présenter devant le Christ pour recevoir le Christ dimanche. Préparez-vous donc à partir de dimanche même, après la liturgie, préparez-vous déjà pour l'autre liturgie, en sachant que le Christ viendra sans cesse et qu'il sera bon et ami des hommes, mais en même temps le juge redoutable. On ne peut pas tromper Dieu. Si on peut tromper les autres, Dieu, on ne peut jamais le tromper. Et si on se présente devant l'Eucharistie avec une conscience impure, avec une conscience endormie, plutôt, c'est ça le plus dangereux, état dans lequel on peut se présenter devant l'Eucharistie, sachions que le Christ sera un juge redoutable pour ceux qui se présentent dans cet état. En venant à la confession, les choses changent. En venant à la confession, en confessant un peu le péché, en voir un peu qu'est-ce que ça ne va pas dans ma vie. Et il y a, toute l'orthodoxie témoigne que la vie de l'homme est assautée par toutes les épreuves du diable, par tous les péchés possibles. On est assauté de toutes nos parties par le péché. On ne peut pas dire ça. Toute l'expérience orthodoxe témoigne de ça. Et en même temps, toute l'expérience orthodoxe témoigne que dans le sacrement de la confession, tout ça va disparaître. On a de nouvelles forces. On a de nouvelles perspectives. On a de nouvelles capacités d'aller vers le Christ, vers la communion. Qu'est-ce que dit une autre prière de Saint Basile le Grand ? Je sais, Seigneur, que je communie indignement à ton corps très pur et à ton précieux sang, Seigneur. Je sais, Seigneur, que je suis coupable et mange et bois ma condamnation et ne discernant pas le corps et le sang de mon Christ et mon Dieu. Je sais, vous devez devenir conscient que vous êtes coupable devant le corps et le Christ, le sang de Christ, que vous n'êtes pas digne. Chacun d'entre nous, personne d'entre nous n'est pas digne. En commençant avec le prêtre, personne n'est pas digne. Et pourtant, cependant, mettant ma confiance en ta compassion, je m'approche de toi car tu as dit, celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et donc pitié de moi, Seigneur, et ne me couvre pas de honte, pécheur que je suis, mais agis avec moi selon ta miséricorde. Que ce sang don soit pour moi guérison, purification, illumination, sauvegarde et salut, sanctification de mon corps et de mon âme. Voilà combien de bien on peut avoir si on s'approche avec la conscience réveillée. L'Eucharistie devient pour nous purification, guérison, illumination, sauvegarde et salut, sanctification de mon corps et de mon âme. Il va chasser loin de moi toute imagination et toute influence mauvaise du démon, s'exerçant dans mon esprit et dans mes membres. Il va augmenter vos confiances et l'amour envers Dieu. La prière dit qu'il protège et redresse ma vie, l'Eucharistie, si je m'approche avec la conscience. Qu'il me fasse progresser dans la voie de la vertu et de la perfection. Qu'il me fasse accomplir tes commandements et participer à ton Esprit Saint, qu'il soit pour moi un viatique pour la vie éternelle et une défense valable devant ton redoutable tribunal. Mais qu'il ne tourne pas à mon jugement et à ma condamnation. Chaque prière dit ça. D'un côté, l'Eucharistie peut être illumination des âmes, sanctification des âmes, guérison des âmes, sauvegarde et salut. Mais d'autre côté, pour ceux qui ne sont pas conscients devant qui il s'approche, l'Eucharistie peut devenir jugement et condamnation. Attention, on communie avec le feu, on communie avec le corps et le Christ de notre Dieu. Attention, ce n'est pas un jeu. L'Eucharistie peut devenir purification, guérison, illumination, salut, mais en même temps, elle peut devenir jugement et condamnation. Donc, je m'arrête ici avec mon homélie que je vous ai préparé aujourd'hui en partant de cet évangile qu'on a écouté, l'évangile de la guérison des deux démoniaques du pays du Gadaréen, en vous demandant à ceux qui ne sont pas encore conscients du rôle de la confession, du rôle de la pénitence, et du rôle de l'humilité, d'essayer de faire l'exercice, au moins l'exercice chez eux, de faire l'exercice de la prière. Et dans toutes les prières, vous allez voir, dans beaucoup de prières, il y a des morceaux qui disent « Très sainte Mère de Dieu, aie pitié de moi, le pécheur ». On ne dit pas dans les prières « Aie pitié de moi, le virtueux », pas du tout. Parce qu'on doit avoir la conscience du péché. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi, pas le virtueux, le pécheur. Sans anges et archanges et tous les puissants célestes, intercédez pour nous devant le Christ, pour nous, les pécheurs. Toutes les prières ont cette phrase. Toutes les prières mettent l'accent sur l'importance de la conscience du péché en nous, sans rester ciblé sur le péché, mais avoir toujours en nous cette perspective que le péché peut nous assauter dans chaque moment de notre vie. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Ceux qui ont l'impression qu'ils sont stables, ceux qui ont l'impression qu'ils sont sur un terrain fort, qu'ils fassent attention. Ceux qui se croient dans la vertu, qu'ils fassent attention. Parce que la chute est très près. Et la plus près que jamais, quand on se croit sur un terrain stable et quand on se croit que dans notre vertu, on a fait des grands progrès spirituels, je ne sais pas quoi. Non, on est toujours dans un examen devant le Christ. Et s'il y a un examen, on ne sait pas si on va le passer ou pas. C'est ça la réalité, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. On est devant un examen qu'on ne sait pas si on va le passer ou pas. Prions le Seigneur qu'on passe cet examen. Prenons l'Eucharistie comme une viatique pour cet examen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne, comme je dis toujours, la capacité de comprendre la vie orthodoxe. C'est très important de savoir que même si ici on est en France, même si on est loin d'un pays orthodoxe, on ne peut pas inventer l'orthodoxie. On ne peut pas faire une autre orthodoxie que l'orthodoxie traditionnelle. Ça n'existe pas, c'est une hérésie, c'est un non-sens. On doit devenir des orthodoxes comme tous les orthodoxes. Qui se confesse devant l'Eucharistie, qui communie avec l'Eucharistie, avec la conscience du péché, qui font des métanies, qui se prosternent devant les icônes, qui comprennent la vie de l'Église très orthodoxe. On n'est pas ni musulman, ni protestant, ni rien d'autre. On est des orthodoxes et on doit être des orthodoxes, des vrais orthodoxes. Autrement, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire un mélange des autres choses. On doit être des orthodoxes, un peu monastiques, si vous voulez. D'une manière un peu en grec, il y a une parole que je ne peux pas traduire ni en français ni en roumain. Katanyktika, c'est-à-dire toujours revenir à nous-mêmes et faire des sondages en nous-mêmes pour voir si le Christ commence à travailler en nous, pour voir un peu comment se passe cette dynamique spirituelle. C'est ça l'orthodoxie. C'est ça l'orthodoxie. De vivre à partir de l'icône, à partir de liturgie, à partir de vos prières chez vous. Il n'y a pas une philosophie. C'est pas une philosophie, l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est la vie, c'est l'expérience. On vit, on sent bien quand Dieu vient dans notre vie. Voilà, aujourd'hui, il est venu dans l'aide de deux démoniaques. Il est venu, il n'a pas fait de philosophie. Les démoniaques, ils n'ont pas fait de philosophie. Ils ont dit, voilà, on a besoin de ton aide, Dieu qui est venu aider. C'est ça, notre vie se passe dans la même manière, toujours. Toujours. Devant les icônes, devant une icône, par exemple, j'ai entendu une... Avec ça, je vais finir. J'ai entendu une parole de quelqu'un qui m'a dit que l'icône est un événement. Est un événement. Parce que l'icône est une présence, et quand tu te mets devant une icône, tu te mets devant une présence. Comment pas se prosterner devant les icônes, par exemple? Parce que c'est une présence, parce que c'est la mère de Dieu, parce que c'est le témoignage que c'est la mère de Dieu qui va t'aider dans cette icône. Et si vous allez au Mont Athos, vous allez voir que là-bas, il y a dans une seule église, il y a 12 icônes de la mère de Dieu. Pour notre raison, c'est un peu la folie. Pourquoi avoir besoin de 12 icônes dans la même église, la même chose, la mère de Dieu, partout la mère de Dieu. C'est un peu, pour l'homme qui n'est pas un peu habitué avec l'orthodoxie, c'est un peu la folie. Mais quand tu comprends l'histoire de chaque icône, quand tu vas voir que chaque icône a fait un miracle, ou plusieurs miracles, ou milliers de miracles, et que les moines de Mont Athos ou de tous les monastères en général ont très bien fondé cette foi, que dans l'orthodoxie, on parle beaucoup de miracles, on parle beaucoup de l'action de Dieu très, très visible, si vous voulez, vous allez comprendre le rôle de tout. Et de l'icône, et de gestes liturgiques, et de la liturgie, de tout. Mais il faut se jeter un peu dans l'orthodoxie. Pour ça, je répète, on n'invente pas une autre orthodoxie. L'orthodoxie, c'est l'orthodoxie. Je répète, la conscience du péché, confession et communion. Que Dieu nous bénisse. Amen.